Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Ensemble, Guy Wagner et Pierre Écart à la technique. Nous vous proposons la sixième émission d'après le livre Prélude au Vendée Globe, édité chez Gallimard en 2020. Le thème d'aujourd'hui est Océan et mer avec Laure Bailly-Suif, directrice de l'unité neurogénétique du poisson zébré de l'Institut Pasteur. Neuroscientifique et généticienne, elle étudie les mécanismes moléculaires et cellulaires contrôlant la neurogénèse et s'intéresse en particulier aux cellules souches. Pour cela, elle utilise comme modèle le cerveau embryonnaire et adulte du poisson zébré. Raphaël Haroche, auteur, compositeur, interprète, est né à Paris en 1975. Il a publié son premier roman aux éditions Gallimard, Retourné à la mer, qui a reçu le prix Goncourt de la nouvelle en 2017. Son texte, Parce que la mer était là, lu par Martine Wagner. Et Alan Routa, 27 ans, navigateur suisse, régatier, mais avant tout marin. Il a commencé par l'école de la course au large, la classe mini, qu'il a fréquenté 2 ans, avant de se mettre aux classes 40, puis à l'IMOCA. Sa carrière de marin est bien remplie, puisque de 8 à 18 ans, il a vécu en voilier, et il a appris à être un bon régatier. On n'apprend pas à être bon marin, car c'est une affaire d'instinct. Être un bon marin, c'est savoir sentir quand il faut mettre la performance entre parenthèses. Son texte, Mon Atlantique. Allons vers le large avec eux. Notre modèle d'étude est le cerveau d'un poisson téléostéen, le poisson zébré, dont on essaie de comprendre comment il garde un grand nombre de cellules souches très actives et efficaces. Mais le lien entre nos travaux et les océans, c'est l'immensité. Nous trouver chaque jour devant une infinité d'éléments à comprendre, chaque petite avancée redéfinissant un nouveau point de départ devant cette immensité.
Parce que la mer était là. Mon frère n'était pas tout à fait terrien. Comme nous, il marchait dans la lande ou les cailloux. Comme nous, il aimait l'odeur de l'herbe après la pluie. Il n'était pas particulièrement malheureux, pas vraiment heureux non plus. Il semblait simplement attendre que les saisons passent. Il ne faisait qu'attendre, assis à la fenêtre, que la mer monte. Attendre comme un prisonnier attend une amnistie. Lorsqu'il y avait du vent d'ouest, celui qui apportait l'humidité de la mer, il restait dans le jardin au milieu des arbres, en appui contre lui-même, contre le vent qui soufflait librement en tout point de la terre. Il avait beau être immobile, cela donnait l'impression d'un mouvement illimité. Le soir, au lieu de faire du feu, mes parents allumaient la télévision et regardaient les informations. Ils se tenaient serrés, l'un contre l'autre, écoutant les nouvelles, ils en étaient tout bleus. Mon frère restait dans le jardin à les regarder sans défense, puis ses yeux se portaient sur cette masse noire et immense, sans savoir lequel des deux abîmes était sa maison. Dans la chambre, lorsqu'il dormait, je me penchais au-dessus de son lit pour l'écouter respirer. Je m'approchais de lui, ses lèvres étaient entr'ouvertes, mais je n'entendais que le bruit de la mer. Le dimanche, nous laissions nos parents aller prier à l'église, sous la flèche du clocher, Nous allions pêcher sur la grève. Il s'agenouillait devant les cathédrales de nacre que formaient les huîtres. Il priait les yeux ouverts. Il priait les profondeurs pour qu'elles le libèrent d'un poids qui lui pesait sur terre. Était-ce les liens de la gravité? De notre famille? Je ne sais pas. À l'école, lorsqu'on lui demandait de se dessiner ou de dessiner nos parents, il dessinait un hippocampe, un congre, et pour lui une lamproie. « Ce n'est pas ça, disaient les maîtres, tu n'es ni très beau ni très grand, certes, mais tout de même une lamproie. Je n'y peux rien, c'est ainsi que je me vois, répondait-il. » En grandissant, nous nous sommes mis à fumer des cigarettes royales au menthol. Il disait qu'elle lui faisait penser à l'air du large. Mon frère s'est engagé sur un bateau. Il est allé en Islande et aux îles de la Sonde. Il a fait le tour du monde. Parfois, je recevais un mot de Manille ou de Nassau. « Rejoins-moi, il fait chaud, la bière est glacée. J'écoute la mer en pensant à toi. J'écoute son chant. Il n'y a rien de plus mystérieux ni de plus émouvant. Partout le même et toujours différent. » Un jour, tu comprendras. Il me laissait une adresse poste restante dans tous les bordels de la terre. Moi, je ne voyais que le plafond de ma chambre, été comme hiver. Au bout de quelques années, nous n'avons plus reçu de cartes ni de nouvelles. On m'a dit que son bateau avait coulé, perdu corps et biens. Mes parents sont partis à la chapelle pour prier. Ils étaient vieux, ils se tenaient l'un contre l'autre. Ils arrivaient à peine à marcher. Moi, je suis restée dans mon lit. Sans bouger, je ne savais qui prier. Si les corps sont perdus, au moins sauvez les âmes. La nuit, le bruit de la mer s'immisçait dans mes rêves, me murmurait dans une langue inconnue. Pourquoi ne viens-tu pas, toi aussi? Pourquoi tu restes là, allongé devant moi? Parfois, par le hublot d'un rêve, j'apercevais une épave trouée de requins. Un grand noyer, qui avait le visage de mon frère, je lui demandais « Pourquoi as-tu pris la mer? Pourquoi as-tu tout quitté? Ton amour, ton pays, ton foyer ?» Parce que la mer était là. Simplement parce qu'elle était là. « Parce que la mer était là, » me répondait-il. Au cimetière marin, on lui dépose parfois des cailloux blancs, mais ce n'est pas là qu'il est. La nuit, je l'entends encore respirer à mes côtés. Je me penche au-dessus de lui, bouche entr'ouverte, et j'entends le murmure de la mer. Sans ressac, je l'entends qui me dit « C'est maintenant !»« Il faut y aller, c'est maintenant !» Parce qu'elle était là.
Mon Atlantique. L'Atlantique n'est pas uniquement un océan, pas simplement une vaste étendue d'eau salée, animée par de simples courants où l'on pourrait imaginer envoyer sa grand-mère des îles Canaries à bord d'une baignoire pour la retrouver quelques semaines plus tard de l'autre côté aux Antilles. L'Atlantique a été mon terrain de jeu pendant de nombreuses années. Et il l'est encore aujourd'hui. Après l'avoir déjà traversé plus de 10 fois en long, en large et en travers, je suis désormais certain qu'aucun autre océan n'offre autant d'histoire et de magie. J'ai eu de la chance d'en faire plusieurs fois le tour et aucune traversée n'a jamais été pareille à une autre. Tant du point de vue de la navigation que de celui de l'art. Oui, de l'art, car les panoramas qu'il offre sont dignes de ceux d'un film de Spielberg et d'une toile de maître. D'abord, ses îles et ses côtes nous laissent un souffle coupé, puis le cœur gros. Ensuite, sa houle, si imprévisible, et son écume de vagues nous accompagnent, tout comme ses nuages, ses grains, ses levées et couchers de soleil. Magnifique, mais aussi tellement capricieux et ingérable. Passer d'une mer douce et tranquille, avec comme seul bruit ceux d'une voile qui vient contrer la houle sous le roulis du bateau, ou d'une écoute qui claque, à une mer tourmentée et violente, soufflant la moindre éclaircie qui oserait pointer le bout de son nez. Capricieux mais aussi mystérieux, les Bermudes, les Açores. Ces endroits ont fait couler beaucoup d'encre. Mythe ? J'en étais convaincu, mais aujourd'hui je sais que l'Atlantique cache son jeu et demande une attention toute particulière. J'ai passé ma jeunesse à voyager sur ces eaux, de port en port, à reprendre la barre de notre voilier de voyage pour aller rencontrer d'autres cultures, d'autres histoires. C'est dans l'Atlantique que j'ai traversé un mythique grain blanc sur notre route, telle une main qui vient du ciel pousser les voiles, jusqu'à ce que le mât plonge dans ses eaux chaudes. C'est ainsi dans l'Atlantique que j'ai vu les nuages défiler à vitesse grand V, le nez sur le baromètre, à voir la courbe se péter la figure. Ah, c'était un cyclone. L'Atlantique n'a rien à envier à ses petits camarades de contrées éloignées. Il possède tout pour nous rendre heureux, tout comme pour nous faire vivre les pires cauchemars. Durant le Vendée Globe 2016, je me rappelle l'étrave de mon fidèle compagnon de route qui venait de dépasser le Cap Horn. C'était pour moi la délivrance. J'allais enfin retrouver mon océan préféré. La peur du Grand Sud et de ses vagues énormes était derrière moi. Mais il n'en fut pas ainsi. Je replonge dans mes souvenirs. C'est comme si le monde s'était arrêté. Je revois encore cette image de mon voilier de 18 mètres, fatigué d'avoir parcouru le tour du monde, resté collé sur une mer lisse sans le moindre souffle d'air. L'aventure allait finalement se prolonger, après déjà 70 jours de mer. L'Atlantique s'est-il acharné sur moi? Aucune idée, mais la route fut bien longue, très très longue. Mon bateau et moi étions comme retenus par son ancre, comme si l'océan Pacifique nous avait jeté un sort et voulait nous garder prisonniers. Les jours et les semaines sont passés aussi lentement que les milles sous notre coque. Il fallait garder le moral, regarder devant, visualiser cette ligne d'arrivée qui n'était finalement plus très loin. Viser les copains de devant aussi, car ce n'est qu'après 24 heures d'avance que mes deux plus proches concurrents passaient l'équateur pour toucher 20 nœuds de vent de travers en route vers leur victoire. Pour moi, ce ne fut pas la même histoire. 30 nœuds de vent au pré serré à 30 degrés de la route menant à la ligne d'arrivée. Peut-être s'est-il donc acharné contre moi, mais lorsqu'un marin termine son aventure, quelle qu'elle soit, quelle que soit la distance parcourue ou les dangers rencontrés en mer, il doit remercier l'océan. Ce n'est qu'en posant pied à terre que l'on se rend compte que rien n'était si terrible que ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous y retournons sans arrêt. Un marin n'a pas besoin de grand-chose, du tissu en guise de voile, un poteau comme mât et n'importe quoi qui flotte pour coque. Ce dont nous avons besoin, c'est un terrain de jeu. Vous connaissez désormais le mien, et je m'y suis si souvent senti comme un poisson volant, à suivre tant bien que mal ma trajectoire de vol entre deux vagues, tout en m'en prenant une bonne de temps en temps dans la figure, histoire de me rafraîchir un peu. La course au large m'éloigne quelque peu de cette approche de la navigation. Je me trouve aujourd'hui bien loin d'une promenade côtière ou d'une transatlantique en famille. Il n'en reste pas moins que j'ai tout appris avec toi, petit océan.